Bonjour à tous, voici l'émission de l'Église protestante unie de Chartres, Beauce et Perche, animée par Jean-Paul et Marie-Christine de Vels. Bonjour Jean-Paul.
Bonjour Marie-Christine et bonjour à tous.
Et Simon Martin est à la technique. Aujourd'hui, nous allons réfléchir sur la parabole du juge qui se fait prier longtemps par la veuve. Elle le prie tellement, tout le temps, qu'il finit par lui accorder ce qu'elle veut pour avoir la paix. Et nous, comment devons-nous prier Dieu? Est-il comme ce juge ou doit-on seulement dire à notre Père de temps en temps? Nous allons essayer de réfléchir à cette question. Donc, je vais commencer par vous lire dans l'Évangile de Luc, au chapitre 18, les versets 1 à 8. Jésus leur dit une parabole sur la nécessité pour eux de prier constamment et de ne pas se décourager. Il leur dit « Il y avait dans une ville un juge qui n'avait ni crainte de Dieu, ni respect des hommes. Et il y avait dans cette ville une veuve qui venait lui dire « « Rends-moi justice contre mon adversaire. » Il s'y refusa longtemps, et puis il se dit, « Même si je ne crains pas Dieu ni ne respecte les hommes, eh bien, parce que cette veuve m'ennuie, je vais lui rendre justice pour qu'elle ne vienne pas sans fin me casser la tête. » Le Seigneur ajouta, « Écoutez bien ce que dit ce juge sans justice. » Et Dieu ne ferait pas justice à ses élus qui crient vers lui jour et nuit? Et il les fait attendre? Je vous le déclare, il leur fera justice bien vite. Mais le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre?
Jésus disait à ses disciples dans le sermon sur la montagne, « En priant, ne multipliez pas les vaines paroles comme les païens. » Et il nous donne comme exemple de prière le Notre Père. Dans la parabole du juge inique que nous venons de lire, Jésus dit au contraire, « Dieu fera justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit. » Alors on se prend à se demander s'il faut prier ou s'il ne faut pas prier. S'il faut toujours prier et ne point se relâcher, comme dit Luc, ou s'il faut plutôt rester sobre dans la prière et se limiter à dire de temps en temps le Notre Père.
Devant ces affirmations évangéliques qui semblent contradictoires, on peut penser que ce n'est pas facile d'être chrétien. Et Dieu lui-même semble n'avoir pas fait les choses simplement. Il a choisi Jésus comme médiateur entre lui et les hommes. Or, Jésus se présente à nous comme un homme ordinaire. Jésus n'a-t-il pas démitisé Dieu lui-même, puisqu'il l'a détrôné de son ciel pour le faire descendre en sa personne sur la terre parmi les hommes? Jésus n'a-t-il pas fait de Dieu le compagnon des hommes? Et voilà que nous nous demandons depuis 2000 ans s'il faut chercher Dieu dans sa transcendance, comme étant le tout autre, le tout puissant, ou s'il faut le trouver parmi les pauvres et les misérables de l'humanité, comme étant le crucifié, l'agressé. La prière est-elle dialogue avec Dieu ou combat terre à terre parmi les hommes ?
Vous savez que ce débat a été au cœur des recherches de la nouvelle théologie dans le contexte du phénomène de sécularisation et de déchristianisation des masses dont certains se réjouissaient comme d'une purification nécessaire de l'Évangile et dont d'autres s'affolaient comme étant le signe des temps derniers depuis le début du XXe siècle. La foi est-elle menacée de mort dans les derniers temps que nous vivons ? Est-ce là ce que Jésus voulait dire dans cette parabole du juge d'injustice en demandant en conclusion « Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» On parlait beaucoup de la théologie de la mort de Dieu. Il y a 30 ans, on n'en parle plus maintenant.
Durant cette émission, nous écouterons un CD qui s'appelle Inspiration aux éditions La Cause. C'est de la musique à l'orgue et flûte de Pan. Le théologien allemand Dietrich Bonhoeffer, qui a été pendu par les nazis en 1945 alors qu'il avait 39 ans, a posé à ce sujet de la quantité de prières qu'il faut faire quelques questions troublantes qu'il a consignées, comme vous le savez peut-être, dans le recueil de ses lettres de captivité sous le titre Résistance et soumission. Pour lui, il ne fait pas de doute que la fidélité à l'Évangile, dans le monde moderne, consiste non pas à revenir coûte que coûte à un piétisme dépassé, mais à trouver une approche vraie de l'homme moderne. Voici quelques-unes de ses réflexions et de ses questions. Le temps où on pouvait tout dire aux hommes, par des paroles théologiques ou pieuses, est passé, comme le temps de la spiritualité ou de la conscience. C'est-à-dire le temps de la religion en général. Nous allons au-devant d'une époque totalement irreligieuse. Tels qu'ils sont, les hommes ne peuvent tout simplement plus être religieux. Ceux-là même qui se déclarent honnêtement religieux ne pratiquent nullement leur religion. Allons-nous fondre alors, demande Bonhoeffer, sur quelques malheureux dans leur moment de faiblesse et les violer religieusement pour ainsi dire ?
Et les questions auxquelles il faudrait répondre aujourd'hui sont celles-ci. Que signifie une église, une paroisse, une prédication, une liturgie, une vie chrétienne dans un monde sans religion ? Ces citations vous paraîtront peut-être choquantes. En un temps où certains parlent d'un retour du religieux, après l'effondrement du marxisme, peut-être aussi pourrez-vous contester valablement certaines des analyses que Bonhoeffer donne de l'homme moderne en vous demandant en particulier si l'homme moderne est vraiment devenu majeur et capable de résoudre ou de vouloir résoudre toutes les questions qui se posent à lui. Mais il n'en est pas moins vrai que les questions posées ici, et en particulier dans leur relation avec le sujet de la prière qui nous préoccupe ce matin, sont stimulantes et salutaires. Que faut-il prier? Pourquoi faut-il prier? Comment faut-il prier? Notre Dieu sera-t-il le Dieu miracle, le Dieu bouche-trou, comme disait Bonhoeffer? Notre Dieu sera-t-il le Dieu oreille de paresse? Comment nous approcherons-nous de Dieu dans la prière?
Dieu est-il le Dieu qu'on invoque quand on est malade, afin d'obtenir une guérison pratique, commode et gratuite? Dieu est-il le Dieu qu'on invoque afin de consoler et de rassurer les hommes devant la mort? Dieu est-il le Dieu qu'on invoque afin de rejeter sur ses épaules divines le souci de la justice parmi les hommes, de la cessation de la guerre, de la nutrition de milliards d'hommes affamés? Dieu est-il le Dieu de tous ceux qui manquent de courage devant la vie, devant l'engagement risqué de l'aventure humaine et sociale? J'aimerais parler de Dieu, dit Bonhoeffer, non aux limites, mais au centre, non dans la faiblesse, mais dans la force, non à propos de la mort et de la faute, mais dans la vie et la bonté de l'homme. Et ces affirmations, on pourrait les contester, mais elles contiennent une interpellation tonique et exigeante des églises et des chrétiens.
Nous nous sommes habitués à prier Dieu pieusement, machinalement, verbeusement. Nous avons considéré que Dieu était la solution commode à toutes nos petites misères. C'est pourquoi nos prières sont devenues parfois superstitieuses, mendiantes, étriquées. Dans nos prières, nous avons méprisé l'amour de Dieu parce que nous n'avons pas répondu à cet amour par l'amour. Nous n'avons pas mis Dieu au centre de nos vies et de la vie, mais à la périphérie. Ce n'est pas notre joie de vivre que nous avons voulu partager avec Dieu, mais nos petits tracas et nos misères. Comme ces gens qui ne savent parler que de leur malheur, jamais de leur joie, et que tout le monde fuit comme la peste. Or Dieu n'a pas agi ainsi avec nous. Jésus-Christ n'est pas resté distant et lointain avec nous. Il est venu parmi nous. Il est devenu des nôtres. Il a aimé notre vie. Il a donné de la valeur au combat de l'homme pour vivre, à la joie humaine de vivre.
Comment nous faut-il donc prier? Vous savez que les disciples ont posé un jour cette question à Jésus et vous connaissez la réponse. Jésus leur a donné le Notre Père. Or, le Notre Père n'est pas une prière pieuse, verbeuse, étriquée et mendiante. Le Notre Père est cette prière par laquelle l'homme partage avec Dieu, dans une réponse d'amour à l'amour reçu, ce qui fait la préoccupation de Dieu pour les hommes, c'est-à-dire le développement du royaume de Dieu parmi les hommes. Les trois premières demandes du Notre Père nous font participer à la préoccupation d'amour de Dieu pour tous les hommes. Les trois dernières demandent à Dieu d'intervenir au centre même de notre vie d'homme. Le Notre Père est la prière du Fils s'adressant au Père. Le Notre Père est la prière de l'amour qui partage. Le Notre Père nous est donné encore aujourd'hui pour nous délivrer et nous débarrasser de toutes ces prières fausses et insultantes pour Dieu, dans lesquelles il nous arrive si souvent de nous complaire et de nous endormir.
Que faut-il donc en conclure ? Faut-il ne prier que le Notre Père ? Faut-il supprimer les réunions de prière ? Tout ce que nous avons dit indique-t-il que la grande majorité des paroissiens qui ne participent pas à ces groupes de prière manifestent ainsi une santé spirituelle qui fait encore défaut au pasteur ou à quelques autres attardés dans un exercice dénué de sens et de valeur ? Vous vous douterez, je pense, que les choses ne sont pas aussi simples que cela. Nous disions en commençant cette réflexion que ce n'est pas chose simple que d'être chrétien. En effet, nul ne sera quitte si facilement devant les affirmations évangéliques sur la prière. Jésus ne nous a appelés ni à la paresse intellectuelle, ni à la paresse spirituelle.
Jésus, qui condamnait les prières hypocrites, longues, superstitieuses, et qui donnait le Notre Père comme type d'une prière filiale, d'une prière d'amour, nous adresse en effet ici, dans ce chapitre 18 de l'Évangile de Luc, la parabole du juge inique. Pour montrer, dit Luc, qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Que voulait donc dire Jésus par cette parabole du juge et de la veuve ? Dieu ne ressemble pas, bien sûr, à un juge injuste. Ce n'est pas ce que Jésus voulait dire. Dieu ne s'amuse pas non plus à nous torturer et à nous pousser à lui demander 100 fois la même chose pour ne nous l'accorder qu'à la 100e fois. Pouvez-vous imaginer un père agissant ainsi avec son fils ? Or, Dieu est notre Père, et Jésus lui-même nous l'a appris. Cette révélation est au centre de son évangile, de cette bonne nouvelle.
Alors pourquoi cette parabole ? Pourquoi, après tout ce que nous avons dit jusqu'ici, à propos des dangers d'un piétisme hypocrite et de prières irresponsables qu'il faut dénoncer, pourquoi Jésus nous exhorte-t-il cependant à faire comme cette veuve qui n'arrête pas d'importuner le juge méchant jusqu'à ce qu'elle obtienne justice ? Pourquoi Jésus nous dit-il « Dieu aussi fera justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit et il ne tardera pas à leur égard ?»
Peut-être tout simplement parce que Jésus connaît bien notre paresse à prier. Il sait bien que nous ne savons pas prier comme il faut, nous dit Paul dans sa lettre aux Romains. Il sait que si nos prières peuvent parfois devenir vaines et fausses, elles peuvent aussi très facilement et simplement cesser d'être. Or, l'absence de prière dans la vie d'un chrétien, c'est l'absence d'un dialogue avec Dieu, comme s'il n'y avait plus d'amour entre Dieu et nous. Que penseriez-vous d'un fils qui n'adresserait jamais la parole à son père ? Telle est notre situation de chrétien qui, en grande majorité, n'osons pas prier car nous ne savons pas prier. Nous sommes muets devant Dieu, nous ne prions pas.
Et Bonhoeffer a raison de nous dire que nous ne devons plus mettre Dieu à la périphérie misérable de notre vie, nous devons voir en lui plus que le guérisseur miracle de nos maladies ou la fée magique de nos réussites. Dieu n'est pas notre bouche-trou, il n'est pas notre vie d'ordure non plus. Je vous lirai pourtant une page étonnante de Marie-Noël pour conclure cette réflexion. En tout cas, le même Jésus qui avait dénoncé la fausse prière nous appelle ici, en Luc au chapitre 18, à prier sans cesse, à prier jour et nuit, nous dit-il, comme la veuve qui priait le juge injuste. Or Dieu n'est pas un juge injuste, mais nous sommes sans doute la veuve.
Autrement dit, Dieu n'accepte pas d'être absent de nos vies. Si nous l'avions relégué aux limites de nous-mêmes, invitons-le maintenant à prendre place au centre de nous-mêmes, au centre de notre vie d'homme, au centre de notre lutte pour la vie, au centre de notre joie de vivre. Dieu nous invite à le prier et à lui parler, avec foi et amour, avec patience et persévérance, avec confiance.
Pour moi, vivre, c'est Christ, disait l'apôtre Paul. Jésus-Christ est en effet l'intermédiaire entre Dieu et nous. Jésus-Christ est aussi l'homme. C'est pourquoi nous le rencontrons chaque fois que nous rencontrons un homme, chaque fois que nous affrontons une situation et une préoccupation humaine vitale. Tout ce qui est humain regarde, concerne, intéresse Dieu. Nous pouvons lui faire confidence de nos vies et lui apporter dans la prière la vie de nos proches. Il faut toujours prier, dit l'Évangile, et ne point se relâcher.
Comme la veuve de la parabole, nous sommes donc nous aussi appelés à la persévérance dans la prière. Peu importe la force du mal qui nous entoure, peu importe le mépris de la justice autour de nous, nous persévérerons dans la prière pour nous-mêmes, pour les autres. Et voici pour conclure, comme j'en parlais tout à l'heure, l'exemple d'une prière humble et espérante pour nous encourager à prier. Il se trouve dans les notes intimes de Marie-Noël. Et voici le dialogue extraordinaire entre l'homme et Dieu, où Dieu ne dit à l'homme qu'une seule chose, « Donne ». Donne ta faiblesse, donne ta misère, donne ta prière. Et voici donc ce passage des notes intimes de Marie-Noël.
Vous voilà, mon Dieu. Vous me cherchiez. Que me voulez-vous? Je n'ai rien à vous donner. Depuis notre dernière rencontre, je n'ai rien mis de côté pour vous. Rien, pas une bonne action, j'étais trop lasse. Rien, pas une bonne parole, j'étais trop triste. Rien que le dégoût de vivre, l'ennui, la stérilité. Donne.
La hâte chaque jour de voir la journée finie, sans servir à rien. Le désir de repos loin du devoir et des œuvres. Le détachement du bien à faire. Et le dégoût de vous, ô mon Dieu.
Donne.
La torpeur de l'âme, le remords de ma mollesse et la mollesse plus forte que le remords.
Donne.
Le besoin d'être heureux, la tendresse qui brise, la douleur d'être moi sans secours.
Donne.
Des troubles, des épouvantes, des doutes.
Donne.
Seigneur, voilà que comme un chiffonnier, vous allez ramassant des déchets, des immondices. Qu'en voulez-vous faire, Seigneur ?
Le royaume des cieux.
Jésus nous dit « Toujours prier et ne jamais se décourager. » Saint-Esprit, remplis nos cœurs, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Viens toi-même prier avec nous le Père, par Jésus notre frère. Amen. Cette émission se termine. Je vous rappelle qu'il y a culte tous les dimanches matins à 10h30 au Temple, 20 rue Saint-Thomas à Chartres, et nous serions très heureux de vous y accueillir. Au revoir et à bientôt.
Au revoir et à bientôt.